Il est 19h22 à l'écoute de France Inter. C'est le téléphone sonne présenté par Claire Servageant. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sébastien.
Et ce soir, on parle des très controversés déchets nucléaires de Bure.
Eh oui, mais que faire de nos déchets nucléaires? Vaste question posée par le projet d'enfouissement de Bure dans la Meuse. Ce projet qui ne date pas d'hier, puisqu'il a déjà 20 ans, a connu une accélération récemment sur le plan institutionnel. L'Assemblée nationale a en effet définitivement approuvé le 11 juillet dernier le projet CIGEO comme centre industriel de stockage géologique, au grand dam de ceux qui le dénoncent depuis des années. Sur le terrain, la contestation s'étend avec des recours en justice, des manifestations, des occupations et plus récemment même la destruction d'un mur érigé par l'ANDRA pour protéger le chantier en cours. Alors, ce projet va-t-il s'enliser comme d'autres avant lui ou va-t-il au contraire aboutir, sachant qu'il engage tout de même les générations futures sur du très très long terme? On en parle ce soir dans le téléphone sonne avec plusieurs invités. Patrice Torres, directeur des opérations industrielles à l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Delphine Pellegrini, experte en déchets radioactifs à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire. Laura Hameau, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. Ils sont tous les trois dans ce studio. Je leur dis bonsoir. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
On appellera également sur place à Bure Michel, un riverain, militant du collectif Sauvons la forêt. Pour poser vos questions à tous ces invités, il y a franceinter.fr ou Twitter avec le hashtag Telson. Il y a aussi et surtout le téléphone. Le numéro, c'est toujours le même, le 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne, Claire Servageant.
Avec, pour commencer, un premier appel qui nous vient du canton de Bure. C'est Patrice qui nous appelle. Bonsoir Patrice.
Ah oui, bonsoir.
Quelle est votre question ou votre
Alors
réflexion?
Voilà, j'appelle à la fois pour une question et un témoignage, puisque j'habite tout près de Bure. Ma question, c'est la suivante. L'enfouissement des déchets sera partiellement réversible uniquement durant leur enfouissement, puis définitif, ce qui représente une menace majeure, terrible. Alors je me pose la question, pourquoi ne pas les stocker en subsurface pour mieux intervenir en cas d'accident majeur et en vue de leur retraitement ultérieur?
Bonne question.
Voilà. Si vous voulez, mon témoignage. Moi, je vis dans le canton de Bure depuis de nombreuses années. Il faut bien savoir qu'il est impossible de comprendre ce que représente le projet CIGEO si on ne clarifie pas la situation en trois points. Ce projet proposé par l'ANDRA, qui va coûter de 25 à 30 milliards au lieu des moins de 10 prévus, a vu le jour en 93 grâce à une procédure ciblée sur deux objectifs. Le premier, convaincre les familles meusiennes ou marnaises de son opportunité par une propagande forcenée, distribution financière qui est allée jusqu'à s'infiltrer, et je dis bien s'infiltrer, au sein de l'éducation nationale avec distribution des cassettes vidéo, ce qui est contraire à toute déontologie. Le deuxième projet, détourner les élus locaux de leur tout premier devoir, celui du discernement. L'honnêteté intellectuelle de tout élu exige qu'il se renseigne, s'informe, à parts égales, sur le pour et le contre d'un projet. Or, le seul attrait d'une manne financière à destination des collectivités a incité 90% des élus...
Pas trop long quand même, Patrice, si vous pouviez...
Ah non, c'est important, vous ne comprendrez pas si je ne développe pas les trois points.
Mais il faudrait peut-être quand même qu'on présente...
À occulter systématiquement les arguments, notamment ceux de la CRIRAL. Et le troisième, et non des moindres, c'est celui d'un pari technologique fou, celui d'installer une poubelle nucléaire en couche d'argile profonde. Or, il n'a jamais existé une seule technologie qui n'ait jamais failli. Prenez les plus grands défis, ça n'a jamais existé. Sachant que des centaines
Patrice,
de trains boués de déchets vont arriver.
Si vous permettez, on va peut-être justement... Vous avez eu l'occasion là de poser votre question et puis d'exprimer déjà votre point de vue. Cette émission sera de toute façon un débat contradictoire et chacun pourra faire part de sa position. Mais peut-être pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, on va déjà commencer par préciser ce qu'est ce projet CIGEO comme centre industriel de stockage géologique à Bure. C'est l'ANDRA qui est chargé de piloter le projet. Alors je propose de passer tout de suite la parole à Patrice Torres qui s'occupe précisément de ce projet. C'est quoi CIGEO?
Donc merci. Donc différentes activités humaines produisent des déchets radioactifs, évidemment la production d'électricité par exemple, mais également l'industrie, la défense ou la recherche. Ces déchets radioactifs sont pour la majeure partie d'entre eux, plus de 90% des volumes, mais qui représentent une part de la radioactivité faible, déjà gérée, stockée sur des centres de stockage en surface. Et ça va répondre à une des questions, ou en tout cas une des remarques de Patrice, qui on l'aura compris, a priori n'est pas pour le projet. Sur le centre de CIGEO,
il y a déjà des déchets stockés en surface. Là, on parle d'un projet d'enfouissement.
90% des volumes de déchets radioactifs produits par les différentes activités qui en produisent, donc la production d'électricité, évidemment, mais l'activité industrielle aussi, la médecine, la recherche ou autre, 90% des volumes de déchets sont stockés. Par contre, ces 90% de volumes de déchets représentent une part faible de l'activité radiologique, puisque, à l'inverse, les déchets dont on parle autour de CIGEO, donc les déchets de haute activité ou de moyenne activité à vie longue, représentent un volume faible, mais de loin la plus grande part de radioactivité.
Ce sont des déchets peut-être les plus nocifs et ceux qui ont la durée de vie la plus longue, c'est ça ?
C'est pas peut-être, c'est certain. Ces déchets-là sont les déchets radioactifs les plus dangereux. Ils proviennent principalement donc, du retraitement des combustibles usés que l'on utilise dans les centrales et de différentes activités en lien avec la production d'électricité nucléaire et puis plus marginalement pour la défense. Donc ces déchets-là ne peuvent pas être stockés en surface. Sinon, on les prendra en charge sur les centres existants et qui sont exploités depuis dans l'Aube par exemple.
Mais pour l'instant, ils sont où ?
Depuis 1992. Donc, ces déchets-là sont entreposés pour la majeure partie d'entre eux dans l'usine de retraitement au niveau de la Hague et donc nécessitent un stockage et donc une solution pour leur gestion définitive afin de protéger l'homme et l'environnement d'aujourd'hui, mais surtout l'homme et l'environnement de demain, puisque ces déchets sont dangereux pour extrêmement longtemps, tel que votre auditeur l'a rappelé, nécessitent une solution particulière. Pourquoi ne pas les mettre en surface et pourquoi les mettre plutôt en profondeur ? Donc CIGEO, c'est en couche géologique profonde, donc à moins 500 mètres, pour qu'on puisse garantir sur la durée que la solution proposée soit sûre et ne nécessite pas l'intervention de l'homme.
Alors, Delphine Pellegrini, qui est experte en déchets radioactifs à l'IRSN, vous êtes d'accord avec Patrice Torres jusque-là sur cette définition de ce qu'on a le projet d'enfouir à Bure ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, comme elle l'a été déjà expliqué, c'est que ces déchets radioactifs dont on parle, qui sont destinés à CIGEO, c'est 3% du volume des déchets qui ont été produits depuis le début de l'industrie nucléaire, mais qui concentrent 99% de la radioactivité. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement nocifs. On ne peut pas s'en approcher sous peine d'irradiation mortelle en quelques secondes, une minute. Et ce, pendant des durées donc extrêmement longues. On est sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et au bas mot, il y aura 80 000 mètres cubes de déchets à gérer, de ce type-là, ce qui veut dire à peu près 20 piscines olympiques, juste pour donner l'idée. Alors, donc le défi, il est bien là. Il est bien là, c'est d'assurer la sûreté de ces déchets sur de telles échelles de temps, qui n'est pas celle de l'homme. Il faut bien voir que les civilisations que l'on connaît jusque-là, c'est moins de 5 000 ans. Donc, pour nous, IRSN, l'équipe qui contre-expertisons les dossiers, le projet de stockage de l'ANDRA, on est à peu près une trentaine de personnes de différentes disciplines, géologie, hydrogéologie, mécanique, biologie, enfin je ne vais pas toutes les citer. Pour nous, la solution la plus pertinente, la plus raisonnable, c'est effectivement le stockage géologique. Car son principe, pour l'isolement et le confinement des déchets, repose sur la stabilité de la géologie, qui, sur le site qui étudie à Bure, est en place depuis plus de 10 millions d'années. Donc, ça permet d'assurer une sûreté passive.
C'est le pari que vous faites. On les met le plus profond possible pour qu'ils ne nous posent pas de soucis. Laura Hameau, porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire. Là, vous ne partagez pas ce point de vue, j'imagine.
Vous venez bien de le dire, c'est un pari et un pari fou. En voulant enfouir les déchets, très clairement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on hypothèque l'avenir et celui des générations futures. Pourquoi aujourd'hui l'État et l'industrie nucléaire s'empêchent s'empresse de vouloir enfouir ses déchets, très clairement, c'est pour les cacher sous le tapis et pour laisser penser qu'on a trouvé aujourd'hui une solution pérenne.
Pour vous, il vaut mieux les laisser à la Hague où ils sont ?
Pour nous, en fait, l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est d'arrêter de produire des déchets. Parce qu'en fait, la question des déchets, vous l'avez souligné, c'est des déchets qui sont très radioactifs, qui vont être radioactifs sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement, qui dépassent l'échelle humaine. Et donc, c'est un vrai débat de société qui doit s'engager. Pour pouvoir engager un vrai débat de société, il faut que celui-ci puisse se faire dans un climat serein et dénué de tout intérêt économique. Or, aujourd'hui, les déchets, c'est un des problèmes majeurs pour la poursuite de l'industrie nucléaire. Et donc, en fait, l'industrie nucléaire cherche à les cacher pour laisser penser qu'elle a une solution et pour pouvoir poursuivre le nucléaire. Donc pour nous, avant même de se poser la question de quoi faire de ces déchets, il faut arrêter d'en produire. Très clairement, quand une baignoire déborde, et ben avant d'éponger, on arrête le robinet. Et c'est cette comparaison qu'il faut retenir.
Patrice Torres, juste une question. Pourquoi le site de Bure dans la Meuse ? Puisque là, pour l'instant, les déchets sont à la Hague, c'est pas du tout dans le même coin. D'où ça vient cette idée ?
Ça vient par la géologie de ce site, puisqu'en fait ça fait près de 20 ans qu'on étudie la géologie de ce site pour vérifier justement qu'elle est compatible avec ce qu'on souhaite faire, à savoir mettre en sécurité les déchets de haute activité. Pour être complet, il faut quand même préciser aussi quelque chose. Le débat de l'ANDRA, ce n'est pas pour ou contre le nucléaire, arrêter d'en produire ou pas. Il faut préciser que 50% des déchets dont on parle et qu'on stockerait si le projet CIGEO est autorisé, parce que ça c'est un point important, à ce stade, ce projet-là n'est pas autorisé, 50% des déchets sont déjà produits Et donc, pour nous, et surtout pour le législateur, il est urgent, justement, de ne pas laisser aux générations futures la responsabilité de gérer les déchets dont nous avons tiré profit, quelque part, et dont nous avons bénéficié, et donc de prendre en charge ces déchets aujourd'hui. C'est une solution qu'on étudie depuis plusieurs dizaines d'années. Le projet, dans le meilleur des cas, s'il est autorisé, sera autorisé pour une mise en service sur une phase pilote à l'horizon 2025. Donc c'est quelque chose de déjà extrêmement progressif.
Effectivement, on va prendre un appel à présent, celui de Jacques, qui nous appelle de Bar-le-Duc, visiblement. Bonsoir Jacques.
Oui,
vous estimez, vous aussi, qu'il faut faire quelque chose de ces déchets, c'est ça?
Oui, si vous voulez, les déchets sont produits depuis 40 ans, et on fait depuis 20 ans des études et recherches en Meuse. Donc il est quand même grand temps maintenant de démarrer la construction d'un stockage. Comme il a été déjà dit... si on arrêtait les déchets de la production électronucléaire aujourd'hui, ça résoudrait pas le problème des déchets qui sont déjà produits. C'est absurde et les gens sont pas idiots de dire.
Enfin, ça éviterait d'en avoir d'autres, quoi.
Bah, oui, mais c'est absurde de dire résoudre les déchets, c'est arrêter la production. C'est pas vrai. Alors, moi, je voulais intervenir sur un autre point. C'est qu'actuellement, vous l'avez indiqué dans le début de votre émission. Il y a des dégradations et des violences contre des mairies, de la gendarmerie. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas la population qui se révolte ou qui se crispe contre ce projet. C'est en fait des gens qui s'attaquent contre l'État et ses institutions. Et ils s'attaquent aux populations locales et à leurs représentants élus démocratiquement. Donc moi, je suis meusien. J'ai participé activement avec d'autres riverains au débat public. Et je trouve anormal qu'une trentaine d'activistes violents s'approprient la parole des habitants, y compris ceux qui ont des inquiétudes légitimes sur le projet qui dure depuis 20 ans dans la région.
Alors on va poser la question, figurez-vous, à Michel du collectif Sauvons la Forêt. Il est en ligne avec nous puisqu'il est justement dans le secteur de Bure. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Vous êtes une trentaine d'activistes et c'est vous qui faites la loi?
On avait en 3 mois de lutte et peut-être en 20 et 30 ans de lutte, on n'avait pas encore... eu droit à ces caricatures aussi grossières. Et je suis très heureux d'apprendre qu'il y a des gens des supporters d'Andra qui sont très pressés d'avoir des déchets sous leur maison. Non, effectivement, c'est très caricatural parce que la lutte contre l'enfouissement, c'est 30 ans. C'est 30 ans de lutte partout en France. Si l'Andra est venu en Meuse, c'est pas parce que la roche était plus favorable que d'autres, parce qu'il faut rappeler que l'Andra devait faire 3 laboratoires, un dans le granit, un dans l'argile, un dans le schiste, et que finalement, une fois qu'ils ont pu avoir l'implantation en Meuse et dans l'argile, ils ont arrêté de prospecter ailleurs parce que le plus dur pour l'Andra, c'était de pouvoir s'implanter. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années avant d'aller en Meuse, elle s'est fait éjecter de partout pour de très bonnes raisons, parce que c'est extrêmement dangereux et c'est un pari complètement démoniaque de vouloir enfuir les déchets nucléaires. Elle s'est fait éjecter partout, elle arrive en Meuse, dans le sud Meuse précisément, où il y avait peu de population, où il y avait des paysans n'étaient pas organisés, il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas de tissu social organisé autour d'une usine d'emploi. Et donc les gens n'ont pas eu la force comme ailleurs, et parce qu'en fait il y a eu toutes des politiques, on a dit un labo, il n'y en aura 3 autres, et finalement il n'y a eu qu'un seul.
Michel, pour l'instant le projet, il n'est pas complètement sur les rails, et ça, Patrice Torres nous l'a rappelé tout à l'heure. Vous, en tout cas, vous multipliez les actions de protestation sur place. Il y a même eu la destruction d'un mur érigé par l'Andra il y a quelques jours. Ça, vous allez poursuivre ce genre d'action?
Alors effectivement, en fait, le discours de l'Andra, c'est ils font rien, ils sont ni responsables des déchets, ni responsables de rien du tout, et finalement c'est 20 politiciens en plein été qui prennent des responsabilités. Ça veut dire si à quel point en fait les gens sont sûrs de ce qu'ils proposent, et on n'a jamais pris sur le projet parce qu'on n'a jamais eu une carte de ce qu'était le projet, on n'a jamais eu une emprise et un calendrier clair, parce que on nous mène en bateau pour nous faire croire qu'éventuellement il y aura une solution, alors que continuer à enfuir les déchets, c'est continuer d'en produire autant en surface, d'en avoir autant en surface, d'en avoir de plus en plus sur les routes et de plus en plus en profondeur. Donc une fois qu'on aura bouclé Bure, quelle région allons détruire? Est-ce qu'on allons creuser Bure pendant une centaine d'années?
Il faut s'attendre, Michel, à des actions de plus en plus radicales ou pas?
Les actions, elles sont portées par des gens, elles sont portées par les habitants, sont portées par des gens qui luttent contre le nucléaire, contre l'enfouissement nucléaire, des gens de droite et de gauche, géographiquement et même politiquement. Et elles sont simplement, en fait, c'est une question politique. Toutes les actions, elles sont radicales dans le sens où elles veulent aller à la racine du problème. C'est-à-dire qu'on a un discours de surface qui est technique, qui est complètement lissé, qui est scientifique, une espèce de domination de discours scientifique, qui veut absolument pas poser la question de d'acter qu'en fait, si on, maintenant on les enfuit parce qu'on n'a plus le droit de les mettre dans la mer, on les met dans la terre, et en voilà, c'est 50 ans de progrès technique. Donc, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire c'est ingérable ces dossiers, ces déchets, et les gens même de l'ANDRA, Jean-Paul Bayet, l'ancien directeur qui a disparu dans la nature maintenant, le reconnaît lui-même. Est-ce qu'on est capable de dire qu'ils sont ingérables ces déchets et de faire le point tant qu'on
Jusque-là, j'ai pas réagi. Il faut peut-être quand même pas pousser.
Patrice Torres va vous répondre. Merci Michel de ce témoignage. Vous qui êtes là-bas sur place, je rappelle donc qu'il y a eu un mur qui a été détruit. Il y a même eu, je crois, des tirs de fusée, d'artifice qui ont visé un hélicoptère de la gendarmerie il y a quelques jours. Avant de passer la parole à Laura Hameau, de porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, Patrice Torres, la parole à la défense peut-être parce que vous avez porté plainte vous récemment. Oui, alors, vous avez peur de travailler maintenant dans ce climat là-bas.
Avant de revenir sur, j'allais dire, les épisodes récents de cet été, il est quand même important de rappeler que l'ANDRA est bien responsable de quelque chose. L'ANDRA est responsable de proposer une solution de gestion sûre pour les populations, l'environnement d'aujourd'hui et surtout les générations qui vont suivre. Ça, c'est la responsabilité de l'ANDRA, des centaines d'ingénieurs qui travaillent à l'ANDRA ou pour l'ANDRA. C'est notre responsabilité de faire ces propositions-là. Ensuite, nos propositions, après avoir analysé les risques, les avoir présentées, proposer des solutions techniques pour répondre à ces risques, pour diminuer l'impact de ces risques en cas d'occurrence, doivent être évaluées par une autorité de sûreté nucléaire indépendante, par l'IRSN. Donc l'ANDRA est bien responsable de différentes choses. Évidemment, l'ANDRA n'est pas le législateur, et donc ce n'est pas nous, et heureusement, quelque part, établissement public qui devons décider et poser les lois. Il y a des gens qui sont élus pour ça. Par contre, l'ANDRA est bien responsable, contrairement à ce qui a été dit, de proposer les solutions techniques sûres. Maintenant, sur les épisodes récents, pour que les gens comprennent et qu'il n'y ait pas d'amalgame, le projet CIGEO, il n'est pas encore autorisé. Donc quand on dit, même dans votre introduction, qu'on a construit un mur pour protéger les travaux autres, c'est faux.
Pour l'instant, c'est pour protéger le laboratoire qui fait des recherches,
alors,
c'est ça ?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait ?
Non, le laboratoire, lui, qui est en place depuis plus d'une quinzaine d'années, est effectivement protégé. Il a été, on va dire, attaqué l'an dernier, mais pour autant, personne n'est rentré ou autre. Là, on a fait l'acquisition d'un bois sur lequel, si le projet est autorisé qu'il se fait, on envisage d'édifier des puits de ventilation, des galeries de stockage. Sur ce bois, pour déposer notre dossier de demande d'autorisation de création, on doit réaliser des investigations géologiques complémentaires, on doit réaliser des comptages au niveau de la faune, de la flore, etc. Toutes ces opérations qu'on réalise sur le terrain depuis plus de 15 ans, qui se passaient globalement de manière sûre et satisfaisante pour la sécurité de nos collaborateurs et des entreprises avec lesquelles on travaille, ne sont plus réalisables en sécurité, puisqu'on a eu des matériels incendiés, on a eu des caillassages, on a des menaces de mort, on a des collaborateurs dont les maisons sont taguées pendant qu'ils sont là avec leurs enfants, etc., etc. Donc pour protéger nos collaborateurs, on a décidé et garantir notre sécurité quand on accède à ce bois, d'ériger une clôture. Une première clôture avait été imaginée, sous légère, en piquet d'acacia ou autre. Elle a été détruite dès qu'elle a commencé à être posée. Et donc on est passé sur un projet de clôture plus robuste, qu'on imaginait plus robuste en tout cas, en élément béton. Et c'est tout. Mais par contre, ce mur-là, il ne vise en rien à protéger les travaux de CIGEO qui ne sont pas encore commencés, qui ne sont pas autorisés. C'est simplement se protéger nous-mêmes.
Voilà, c'est noté. Merci Patrice Torres. Laura Hameau, porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, je voyais réagir.
Oui, bah, vous vous présentez un petit peu en victime. Notre chantier est attaqué, il y a des sabotages voilà, sur telle ou telle installation. Mais moi, je voudrais revenir en fait sur le comportement qu'a l'ANDRA depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner s'il y a des actions fortes et s'il y a une colère des habitants, des militants, qui sont complètement, en fait, bafoués depuis 20 ans. L'histoire de l'ANDRA et du projet de laboratoire puits d'enfouissement en Meuse, c'est vraiment, en fait, un rouleau compresseur. On a cherché à imposer, coûte que coûte, cette option qui
était
l'enfouissement.
Il n'y a pas eu des enquêtes publiques auprès de la population locale ?
Eh bien, en fait, on a passé son temps à mentir à la population et à décaler les choses. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 80, ça devait être un centre d'enfouissement. L'ANDRA s'est en fait jeté de partout. On a décidé, mais bien sûr que si, vous faites non. Mais dans les années 80, l'État et l'ANDRA ont cherché à installer un centre d'enfouissement. Pas dans la Meuse, hein, ailleurs. L'ANDRA s'est en fait jeté de partout. Ils ont changé de stratégie pour favoriser l'acceptabilité sociale du projet, c'est-à-dire ils se sont dit, ben, on va faire un laboratoire. Il devait y avoir plusieurs laboratoires. Ces laboratoires n'ont jamais été mis en place. La région de Bure a été choisie non pas pour les propriétés de son argile, mais bien parce que c'est une région désertifiée, vieillissante, etc. Et en fait, l'Andra, localement, s'est comporté réellement comme une véritable mafia. Je sais très bien que les mots sont durs, mais très clairement, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, alors qu'il n'y a encore aucun déchet à Burk, que le projet CIGEO n'est même pas autorisé. L'Andra achète les consciences, très clairement. C'est aujourd'hui 30 millions d'euros par département qui sont donner aux collectivités territoriales, gens, etc., pour essayer de convaincre les gens. Mais ça, c'est qu'un exemple. Très dernièrement, l'Andra, par exemple, a envoyé des vigiles. Alors, je voudrais quand même revenir sur la question de l'auditeur. La présentation qu'il fait de la lutte n'est absolument pas représentative de la multiplicité de cette lutte et de ses différentes composantes. Et s'il y a eu une violence, simplement pour finir, qu'on a pu constater, c'est celle de Gigil de l'Andra contre des militants qui étaient assis par terre.
On a bien compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord sur ce sujet.
Et là-dessus, il y a des images de France 3 qui étaient présentes.
Oui, après, même pour ne pas laisser quand même de fausses idées et autres, sur, alors déjà, le laboratoire, il existe, et vous le savez très bien, nos autres marnes, oui, depuis près de 15 ans, donc ne dites pas il n'y a pas eu de laboratoire. L'engagement,
il n'y a pas eu d'autres laboratoires.
Vous avez dit il n'y a pas eu de laboratoire. L'engagement vis-à-vis de ce laboratoire,
il devait y en avoir plusieurs.
Est-ce que je peux, pour ma part, allez-y, terminer mes propos, merci.
Et donc, on essaye peut-être de clore assez vite sur ce sujet, parce que j'aimerais qu'on parle justement aussi des générations futures qu'on engage avec ce projet, et des questions que ça pose.
Donc je finis très rapidement. Donc ce laboratoire, l'engagement qui était pris, c'est qu'il reste un laboratoire, et effectivement, il n'y aura pas de déchets stockés sur ce laboratoire, mais l'objectif du laboratoire, c'était justement d'étudier la géologie. On a passé plus de 15 ans à l'étudier pour arriver à la démonstration qu'effectivement un stockage était possible. Et juste avant de passer aux générations futures, il n'y a pas d'élus autour de cette table, et je ne souhaite pas être leur porte-parole. Par contre, je pense qu'il n'est pas raisonnable et acceptable de laisser critiquer des élus qui ont été justement élus, qui, contrairement à ce qui a pu être dit, se renseignent énormément, ont des projets compliqués à gérer sur leur territoire, jouent leur rôle d'élus. Il y a effectivement, alors vous utilisez le mot d'achat de conscience,
au cours de parties de chasse que l'Andra leur paye, par exemple.
Il y a effectivement un accompagnement économique porté sur le projet, qui permet à ces élus de préparer leur territoire à l'accueil d'un chantier qui sera extrêmement important, à l'afflux de travailleurs sur ce territoire qui n'est effectivement aujourd'hui pas prêt à les accueillir. C'est ce à quoi sert cet accompagnement économique.
Merci Patrice Torres. On va prendre un appel, celui de Charlotte. Je crois qu'elle nous appelle de Paris. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir. Oui, donc moi ce qui m'interpelle, c'est vraiment la question de la démocratie. C'est-à-dire le débat sur CIGEO. En 2005, il y a eu un premier débat public. Les conclusions étaient « nous ne voulons pas de l'enfouissement ». En 2006, une loi est votée qui dit « l'enfouissement est la seule solution ». Ces dernières années, il y a eu jusqu'à 15 tentatives de glisser dans des lois généralistes des cavaliers législatifs sur CIGEO. Et la loi qui a été votée en juillet l'an dernier, donc, qui aurait dû concerner tout le monde.
Le 11 juillet dernier.
Oui, le 11 juillet dernier. Donc, qui aurait dû concerner tout le monde parce que c'est un sujet d'envergure nationale qui concerne un territoire, mais qui concerne également tous les Français, a été mise intentionnellement à l'ordre du jour entre le lendemain de l'Euro de foot et le 14 juillet, dans un hémicycle désert, où il y avait à peine 20 députés sur 577. Et parmi les députés, je me permets d'ailleurs de préciser, Monsieur Torres dit que l'Andra ne fait pas la loi, je trouve extrêmement étrange que le rapporteur de la loi en question soit le président du conseil d'administration de l'Andra. Enfin, passons.
Voilà, ils étaient 25 députés et Ségolène Royal n'était pas là. Oui. La séance était présidée par le secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie, si j'ai bien noté.
Et avant ça, c'était passé au Sénat où il y avait eu un vote avec plus de 300 votants favorables et moins de 20 qui étaient contre.
On laisse juste finir Charlotte, peut-être.
Si je peux continuer. Donc, je voudrais juste signaler, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. C'est notamment le fait que un amendement sur permettant aux habitants de s'exprimer a été refusé au motif qu'il ne fallait pas déposséder le Parlement. Donc, quand on voit une loi comme ça qui aura des implications très lourdes, qui est votée par une poignée de députés à peine sur 577, c'est extrêmement symptomatique d'une espèce de passage en force.
Alors, on précise
moi,
peut-être.
Je voudrais demander à Laura Hameau si elle a eu l'occasion à Bure, si elle a eu des témoignages de passage en force semblables dans la région.
Laura Hameau. Et puis après, on va peut-être quand même parler du contenu de la loi et de ce que ça, de ce qu'elle implique.
Oui, très clairement, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le comportement de l'ANDRA qui essaie de passer en force. Pour preuve, les événements récents au Bois-le-Jus. L'ANDRA a commencé des travaux préparatoires avant même que Cigéo ne soit autorisé, en bafouant complètement la réglementation en vigueur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les autorisations de défrichement. Tout à l'heure, vous parliez des plaintes de l'ANDRA, mais les opposants, associations et habitants, puisqu'il y a bien des habitants qui s'opposent au projet et qui ne sont aujourd'hui plus résignés grâce à ce qui se passe. L'ANDRA, là, pour mettre en place ses travaux préparatoires à Cigéo, a avancé en toute illégalité.
Travaux de protection et pas de préparatoire Cigéo qui n'est pas autorisé, vous le savez bien.
Un défrichement complet de la forêt avec une édification de clôture et de murs sans autorisation.
On va quand même faire très simple pour que les auditeurs ne se perdent pas. Je pense que c'est pas l'intéressant, franchement. C'est pas le point le plus intéressant.
Mais si, parce que ça montre très clairement vos attitudes et la manière dont une agence d'État qui bafoue le droit, comment lui faire confiance pour gérer les déchets
en venir
des générations et des générations.
D'accord, ça concerne les générations futures.
Bien sûr que si, vous avez été condamné en justice.
Pardonnez-moi, cette loi, c'est la loi sur la réversibilité de l'enfouissement des déchets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un projet qui engage des générations futures. Et qu'est-ce qu'on dit là? On dit que sur 100 ans, si jamais on trouve une solution, on pourra revenir en arrière. C'est ça, Patrice Torres?
En fait, l'idée, effectivement, de la réversibilité, c'est deux composantes. Une composante très technique, qui est la récupérabilité des déchets, la capacité de pouvoir reprendre ces déchets qui auront effectivement été déposés. Et une composante plus liée à la gouvernance du projet, on parlait de démocratie tout à l'heure, à laisser la capacité aux générations et aux élus qui viendront après, d'éventuellement prendre d'autres décisions, à savoir accélérer l'exploitation de Cigéo ou la ralentir, ou faire des modifications par rapport à ce projet. Ce sont les deux composantes de la réversibilité, et effectivement il a été convenu, parce que ça a été une demande justement à l'issue du débat public. On a parlé du premier débat public de 2005, mais il faut parler aussi du débat public plus récent de 2013 sur ce sujet, où justement chacun avait la capacité de s'exprimer, de donner son avis, et où les associations d'opposants n'ont pas souhaité et ont même quelque part agi pour empêcher la tenue de certaines réunions de ce débat public. Donc là, c'est quand même légèrement contradictoire entre ce qui peut nous être présenté. Mais donc cette réversibilité, c'est effectivement se laisser la capacité pendant la phase d'exploitation, avant que l'on ferme le stockage et qu'on le rende sûr de manière passive, c'est-à-dire sans que l'homme n'ait plus à intervenir, de se laisser la possibilité de récupérer des déchets si d'aventure de meilleures solutions étaient trouvées ou de décisions politiques différentes.
Et imaginons qu'on ne trouve pas ces solutions d'ici 100 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser ces déchets pour des générations sur des dizaines de milliers d'années, des 100 000 ans?
Oui.
Comment on va les informer de ce qu'on a laissé là?
C'est un vrai enjeu, la création de la mémoire du risque. Et aujourd'hui, l'ANDRA a un bloc là-dessus. Parce que c'est vrai, comment imaginer qu'une civilisation prochaine ne va pas aller creuser les pyramides? Finalement, vous en parliez tout à l'heure, ça a 5000 ans. Et on ne peut pas imaginer que les générations futures n'iront pas creuser. Et en fait, c'est complètement hypothéquer l'avenir. On sait aujourd'hui qu'à terme, les colis et les fûts vont se corroder, vont fuir. Et en fait, l'ANDRA espère que l'argile va maintenir tout ça, alors qu'il peut y avoir tout à fait des infiltrations d'eau, des contaminations des nappes phréatiques, etc.
Delphine Pellegrini, un mot peut-être à de l'IRSN sur justement le danger pour les générations futures.
Voilà, le risque lié,
vous faites part de votre inquiétude ou pas ?
Lié au stockage. Mais en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que le stockage ne soit pas capable d'empêcher, pendant les plusieurs centaines de milliers d'années pendant lesquelles ces déchets présentent des risques, d'empêcher un transfert important de radioactivité jusqu'à l'environnement, les nappes phréatiques. D'accord. Il faut savoir que la roche dont on parle, qui est étudiée par l'ANDRA dans le laboratoire souterrain de Bure, elle a effectivement montré des propriétés très favorables en termes de perméabilité et de rétention des radionucléides. Globalement, l'eau bouge très peu dans cette roche. C'est plusieurs millions d'années pour qu'elle sorte du calovox ordien. Et un des risques, ce serait quand même qu'on bypasse cette roche. Donc on crée des courts-circuits, qu'il y ait des courts-circuits. Alors le court-circuit peut être d'origine naturelle, c'est-à-dire des grandes failles qui les traversent. Pour l'instant, les investigations géologiques ont montré qu'il n'y en a pas dans l'état actuel de cette couche. Est-ce qu'il pourrait s'en créer dans les centaines de milliers d'années qui viennent? C'est très peu probable, sens.
C'est beaucoup IRSN. De questions quand même. Hein.
Non, mais c'est une question.
On va prendre maintenant une question de Franck, qui nous appelle de Méribel et qui s'interroge lui aussi sur ce qui peut se passer pour la suite. Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir, c'est sympa. Moi, je suis une petite réflexion. Moi, je suis pour, effectivement, qu'on réfléchisse à l'enfouissement, mais de manière aussi à les sortir pour les reconditionner s'il y a un souci. Donc, c'est-à-dire que dans le futur, eh ben, on va garder ça sous le coude et pas sous le tapis. On va pas l'oublier. Ça, c'est une chose. Arrêter le nucléaire, c'est une autre chose, bien évidemment, en parallèle. Mais ma question, elle était aussi plutôt les déchets qui vont aller à Bure sont français uniquement ou est-ce que ils vont être ouverts, enfin le site va être ouvert à toutes les nations, tous les pays qui ont des déchets nucléaires dont ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'en occuper.
On répond à Franck, Patrice Torres, ce sont nos déchets.
Et on répond très clairement, ce sont les déchets produits par les Français et par la production d'électricité nucléaire et le retraitement de ces déchets-là. Et rappelez aussi également, pour répondre à votre question, que la notion de récupérabilité n'est pas l'objectif final de ce stockage. Ce stockage, il est sûr. Simplement, au travers des débats publics et de l'échange justement avec la société, il a été convenu que cette question soit traitée, à savoir se laisser la capacité de les récupérer un temps si de meilleures solutions techniques étaient proposées.
C'est bien présomptueux de dire qu'il va être sûr.
Mais le stockage, l'objectif de ce stockage, c'est qu'il soit sûr aujourd'hui et demain sur le très long terme. C'est l'objectif et le travail, la responsabilité de l'ANDRA que d'apporter cette démonstration. C'est la responsabilité de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'IRSN que de vérifier que la démonstration apportée est robuste et de garantir que ce stockage est la solution.
Et c'est normal que les gens aussi se posent des questions. Exactement. Sur tout ça, comme Michel qui nous appelle, lui, de Saint-Dizier. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir à vous.
Vous souhaitiez poser une question ou faire part peut-être d'une réflexion ?
C'était une réflexion, puisque je viens d'entendre un mot en disant qu'on allait parler d'éthique et donc de génération future. Il se trouve que j'habite la région de Bure, effectivement, entre Bure et Soulaine, même plus exactement. Et depuis 22 ans, je vis ce projet qui est sur les rails, et bien sur les rails. Et puis, voici quelques années, on m'a demandé d'intégrer un groupe de réflexion sur les enjeux éthiques du fameux projet de Bure. Et donc, ce groupe éthique, piloté par l'évêque de Troyes, a travaillé pendant un an et demi, a se réuni tous les mois pour réfléchir justement à ces enjeux éthiques. Et je peux témoigner aujourd'hui qu'effectivement, on a un vrai, vrai, vrai problème sur la démocratie et sur l'éthique. Et ce projet, la conclusion du groupe, c'est que ce projet, effectivement, n'est pas du tout éthique vis-à-vis de tous ceux qui vont nous suivre. On parle de 6000 générations. Et que donc, il faut absolument abandonner ce projet. Et il ne faut pas enfouir les déchets nucléaires. On voit les risques qu'il peut y avoir, par exemple, aux États-Unis où il y a eu un site qui s'appelle le WIP, avec tous les problèmes qu'il y a eu, l'accident au bout de 15 ans, alors qu'il était prévu sûr pour 100 000 ans. Donc il ne faut absolument pas enfouir, il ne faut pas que ce projet CIGEO aille au bout, c'est aujourd'hui qu'il faut l'arrêter. Par contre, il faut que nos responsables, scientifiques et politiques surtout, et les citoyens, se mettent autour d'une table pour réfléchir à une vraie solution. Et j'allais dire par éthique, on n'a pas d'autre choix que de trouver une vraie solution à ces déchets, ne pas les enfouir, mais neutraliser la radioactivité. Et je terminerai en disant qu'on en plus, on a du temps devant nous, puisque ces déchets sont tellement toxiques, ceux qui restent chez eux, sont tellement toxiques qu'il va nous falloir 100 à 120 ans pour les enfouir à Bure, donc ce qui veut dire qu'ils vont rester en surface avec tous les risques que ça va avoir, et que donc on a le temps pour que la science s'attelle à nous trouver ce que j'appelle une vraie solution.
Merci beaucoup Michel pour ce témoignage. Je voudrais passer la parole à Laura Hameau, puisque vous avez évoqué un souci aux États-Unis. C'est normal qu'on s'informe. Que s'est-il passé ? C'était au Nouveau-Mexique, c'est ça ?
C'est ça.
Parce que d'autres pays sont concernés, hein. on n'est pas seul au monde.
Oui, alors ce n'était pas les mêmes déchets qu'à CIGEO, puisque c'était un centre de stockage et d'enfouissement de déchets nucléaires militaires. Mais finalement, le principe est le même, c'est qu'on va enfouir des déchets en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé comme accident ? On l'a découvert après, hein, mais il y a eu un problème en bas, un dégagement de radioactivité. On l'a su après, c'était dû à l'incendie d'un camion, d'une machine. Et il y a eu dégagement de radioactivité dans l'air via les puits de ventilation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le centre est fermé. On ne peut pas aller récupérer les déchets parce qu'en fait, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de la réversibilité. Mais ça, c'est encore une notion pour favoriser l'acceptabilité sociale du projet. Faire croire que sans souci, on va pouvoir aller récupérer les déchets. Alors déjà, vous le prévoyez pour 100 ans, mais quid de après ? Qu'est-ce qui va se passer si on trouve une solution ou s'il y a un problème ? Et justement, que va-t-il se passer s'il y a un problème ? Aujourd'hui, les exemples le montrent, au WIP, au Nouveau-Mexique, quand il y a un problème et un dégagement de radioactivité, on ne peut plus aller rechercher les déchets, les récupérer, les reconditionner. Et c'est pareil en Allemagne, au centre de stockage d'Asse, où là, on a enfoui dans le sel. En fait, vous parliez tout à l'heure, ce projet projet est sûr, mais comment vous pouvez le savoir? Les seules expériences aujourd'hui de stockage en profondeur sont de véritables échecs, sont des catastrophes environnementales. Aujourd'hui, les Allemands, à Asse, se demandent comment ils vont pouvoir aller récupérer ces colis, et ils ne peuvent pas.
Laura, c'est bien trop dangereux. Je voudrais poser une question à Delphine Pellegrini de l'IRSN. Le fait, il y a le débat évidemment sur l'enfouissement, mais il y a aussi le fait qu'on va beaucoup transporter ces déchets. Transporter, c'est multiplier les risques, non? Forcément.
Oui, mais enfin, moi, j'aimerais revenir quand même, recentrer sur cette question de la gestion des à long terme de ces déchets extrêmement radioactifs. Pour répondre à la question aussi évoquée par le premier auditeur sur l'entreposage, est-ce qu'on pourrait gérer ces déchets en surface, en entreposage? Eh bien, un entreposage, c'est quoi? C'est un bâtiment en surface qui dans lequel on place des déchets pour les isoler, les confiner. D'accord. On voit par expérience qu'au bout de 50 ans, il faut faire des opérations lourdes, retirer les colis, les reconditionner, refaire les bâtiments, les rénover. Et ça, ça veut dire que si on doit gérer ça comme ça sur plusieurs centaines de milliers d'années, il faut faire ces opérations extrêmement lourdes plusieurs centaines de fois. Avec la question qui se pose, la continuité des connaissances. Ce genre d'installation, c'est une sûreté que nous on appelle active, c'est-à-dire avec l'intervention de l'homme. Il faut surveiller constamment. Donc comment faire reposer la sûreté ces déchets qui existent, ces déchets historiques? Il y a bien une solution qu'il faut trouver pour gérer ces déchets.
Il y a bien une solution qu'il faut trouver.
Les enfouir et fermer les yeux.
L'entreposage, j'en ai pas. N'en ai pas.
Fermer les
yeux. Le stockage géologique, lui, présente des risques. On en convient. Il faut les maîtriser. Et pour nous, cette démonstration de la sûreté d'un stockage radiologique, elle est atteignable, même si pour l'instant la démonstration n'est à ce jour pas complète. Pour nous, les enjeux principaux sur le risque radiologique, c'est pour l'instant, lorsqu'on creuse, de ne pas endommager trop la roche, mécaniquement. Lorsqu'on exploite, c'est le risque incendie, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et surtout, savoir aussi fermer l'installation. Et pour ça, des réponses doivent être apportées dans les prochaines années.
Et sur le plan de l'éthique, parce que j'ai pas
30 secondes chacun, pour conclure, sur Patrice Torres, voilà, de l'Andra.
Sur le plan de l'éthique, puisque nous avons également participé aux travaux qui ont été menés sur ce sujet-là par Mgr Stinger, effectivement. Il a été aussi abordé à plusieurs reprises qu'il n'était pas certainement plus éthique, en tout cas pour une bonne partie des participants, de laisser la gestion de ces déchets, la responsabilité de cette gestion aux générations futures. Donc certes, c'est de vrais sujets de société, un vrai débat de société. Il y a effectivement des enjeux éthiques et on ne se cache pas derrière nos responsabilités en tant que participants au débat sur ces sujets. Mais laisser la responsabilité de gérer ces déchets qui existent aux générations futures, est-ce que c'est plus éthique? Moi, je pose aussi la question à vos auditeurs. Chacun, je pense, est suffisamment intelligent pour avoir son propre opinion.
Merci beaucoup, Patrice Torres. Laura Hameau, en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est un grand débat. Il y a la présidentielle qui arrive, la gestion des déchets, le choix énergétique, ça peut-être doit faire partie de ce débat.
Juste pour revenir en deux mots sur les transports, parce que ça a été très vite esquivé, c'est deux transports radioactifs par semaine pendant 100 ans, ce qui représente des risques inconsidérables. Et évidemment, Cigéo doit être un des enjeux des élections présidentielles, mais un vrai enjeu de société.
Merci à tous les trois, merci d'avoir participé à cette émission. Beaucoup de questions, on l'a vu, on y reviendra peut-être un jour demain. Sachez-le, on parlera des migrants qui n'ont jamais été aussi nombreux. À Calais, il est 20h sur France Inter.